Chapitre 84. Sous les coups de boutoir des hommes qui se relaient, l'enduit de l'angle s'est fissuré. Encouragés, Vincent, Charles et leurs compagnons redoublent d'efforts, finissant par obtenir, dans un grand déchirement minéral, l'ouverture d'un étroit interstice. Un courant d'air et une odeur âcre de renfermé se répandent aussitôt dans la pièce. La perspective d'avoir découvert un passage galvanise les hommes qui en oublient toute douleur. Même Charles s'élance avec une vigueur renouvelée, se jetant de tout son poids pour élargir l'ouverture. Récupérant son souffle entre deux charges, Vincent ne cesse de surveiller l'embase du mur. « Courage, encore un effort et nous y serons !» Millimètre par millimètre, une portion de la paroi pivote progressivement, comme une porte réticente. Addison se frictionne l'épaule en grimaçant, mais son œil brille. Ceux qui ont construit cela n'ont pas cherché à condamner l'accès définitivement. Ils comptaient certainement revenir. Assaut après assaut, le raclement de la pierre sur la fondation se fait un peu moins laborieux, et bientôt, l'ouverture est assez large pour qu'un homme s'y glisse en partie. Vincent empoigne une lanterne et y passe la tête. Après une brève hésitation, il se hasarde en entier dans l'obscurité. Soyez prudent, s'alarme Charles. Nous n'avons pas ouvert ce passage de façon orthodoxe. La dernière fois, ce genre de manœuvre, ce mur n'est pas l'œuvre des bâtisseurs du tunnel, le coupe Vincent. Mais comptez sur moi pour me méfier. Tournant le dos à ses compagnons, il soulève sa lampe au-dessus de sa tête. Il ne voit qu'à quelques mètres, et il lui faut un peu de temps pour s'habituer à l'obscurité, mais cela suffit pour distinguer un modeste vestibule carré qui donne sur un escalier dont les marches s'enfoncent vers une nuit insondable. Cavell se décide à avancer prudemment sur l'étrange palier. Le parfum typique des souterrains, terre et poussière, emplit ses narines. Il le hume, partagé entre l'envie de s'aventurer plus loin et une méfiance farouche. Tout va bien, Vincent ? Vous devriez venir voir. Charles ne se fait pas prier et se coule à son tour dans l'ouverture. Il plisse les yeux. Cavell l'accueille en lui prenant le bras pour le guider. Désignant l'escalier, il chuchote comme s'il pouvait être entendu. Si vous le permettez, je vais descendre le premier. Il pose un pied léger sur la première marche pour vérifier qu'elle est bien fixe et dénuée de chausse-trappe. Une fois rassuré, il amène son autre pied et s'y établit comme sur un poste avancé conquis en territoire ennemi. La technique de taille correspond à celle du tunnel de la rue de Montmorency, dit-il en examinant les parois. Charles opine en silence. Degré après degré, Cavell entame la descente en inspectant chaque centimètre gagné sur l'obscurité. Prudent, Charles veille à poser ses pas exactement dans ceux de son compagnon. L'escalier s'enfonce rapidement, sans que la portée de la lampe ne permette d'en deviner la destination. Jusqu'où ce passage va-t-il nous entraîner ? Interroge Charles à voix basse. Vincent n'a pas la réponse. Il effleure le mur de la main, intrigué par un léger dépôt blanchâtre. À mesure qu'ils descendent, cette fine pellicule cotonneuse se fait plus présente. C'est sans doute le témoin d'une cave restée trop longtemps confinée. Tout à coup, le halo de sa lanterne révèle un palier en contrebas. Vincent contient difficilement son envie de dévaler les marches, tant la curiosité est forte, mais il sait ce que pourrait lui coûter trop de précipitation. Une fois parvenu sur la dernière marche, il s'arrête. Il se tient légèrement penché en avant, comme au bord d'un étang gelé sur lequel il hésiterait à s'avancer, de peur que la glace ne se rompe. Avec précaution, il se risque finalement à faire quelques pas sur le dallage séculaire. Lorsqu'il relève la tête, ce qui s'offre à sa vue se situe au-delà de tout ce qu'il avait pu imaginer et le laisse médusé. À ses côtés, Charles affiche la même expression stupéfaite. C'est bien plus qu'une simple tombe qu'ils viennent de découvrir. Toute une crypte surgit des ténèbres, une ample salle ronde dont le pourtour est percé de 13 alcôves verticales, chacune contenant un sarcophage de pierre dressée. Séparant chaque niche, Une arête en arc d'ogive monte jusqu'à la clé de voûte marquée de la croix templière. Au centre de l'espace dallé s'ouvre un puits à margelles carrées, gravé d'arches gothiques et surmonté d'un portique de ferronnerie équipé d'une poulie. L'endroit, figé dans son éternité, dégage une atmosphère souveraine. Même le silence est solennel. Charles et Vincent s'avancent avec humilité dans ce lieu qu'ils sont les premiers à fouler depuis que l'accès en a été muré. Ils sont littéralement cernés par les sépultures. Les cercueils de pierre sont exposés debout, comme si les dépouilles qui leur enferment allaient en sortir d'un instant à l'autre. Un frisson d'excitation, mêlé de craintes superstitieuses, parcourt la colonne vertébrale de Cavell. Curieusement, les tombeaux n'arborent aucune statue de gisant, pas la moindre sculpture d'armoirie, aucun titre. Le pourtour de chaque couvercle, gravé d'écriture latine, encadre des scènes sculptées, toutes différentes. D'un sarcophage à l'autre, elles semblent se suivre, dessinant une sorte de fresque. Les deux visiteurs restent silencieux. Seule leur respiration rythme le temps. Elles résonnent, s'apaisant peu à peu après le premier choc, pour s'accorder progressivement jusqu'à se réunir en un même souffle. C'est un véritable saut dans le passé qu'ils viennent d'accomplir, descendant un escalier pour remonter les siècles, passant d'une cave moderne à une nécropole médiévale enfouie. Partagé entre la prudence et le respect, Charles tend la main vers le sarcophage le plus proche, mais renonce à le toucher. « Pensez-vous qu'il s'agisse du sanctuaire ?»« Je n'en sais rien. » Si c'est le cas, cela voudrait dire que la forteresse templière offrait un accès qui évitait le dédale. Vincent s'apprête à étudier de plus près un sarcophage lorsqu'il remarque dessus le même dépôt neigeux que dans l'escalier. Cette fine couche recouvre l'intégralité de la crypte et ce qu'elle contient. Approchant sa lanterne pour l'examiner, il recule tout à coup vivement et écarte Charles d'un geste. « Surtout ne touchez à rien !» « Ne posez vos mains nulle part !» Addison sursaute, inquiet. « Qu'y a-t-il donc ?»« Du salpêtre. Les murs et les sarcophages sont couverts de salpêtre. Il y en a même jusque sur la voûte. » Charles hausse les épaules. « Ce n'est que cette banale moisissure des sous-sols. L'endroit est resté trop longtemps fermé. Pourquoi vous alarmer ainsi ?»« Ce n'est pas une simple moisissure, Charles. Son nom scientifique est le nitrate de potassium. » S'il se forme effectivement de façon naturelle dans les caves humides, c'est aussi l'un des principaux composants de la poudre à canon. Robert Houdin s'en servait pour ses explosions de fumée. Fichtre ! Si nous étions entrés ici avec un éclairage à flamme vive, comme l'aurait fait n'importe qui au XIIIe siècle, quand on s'éclairait avec des torches, cette salle se serait embrasée en un instant. Charles examine le dépôt duveteux avec circonspection. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Cela ne peut pas relever du hasard, fait remarquer Vincent. L'hygrométrie de cette salle a certainement été conçue pour permettre le développement de ce dépôt hautement inflammable. Peut-être est-ce là l'épreuve du feu que promettait le dédale. En prenant garde d'en éloigner sa lanterne le plus possible, il contrôle les murs. Venez voir. De minuscules trous ont été percés régulièrement en haut et en bas pour permettre à l'humidité de s'infiltrer. Fasciné par ce qui l'entoure, Charles pivote sur lui-même, puis fait le tour de la pièce. Au passage, il jette un rapide coup d'œil dans le puits. Je comprends que les démolisseurs n'aient pas osé détruire ce lieu. Au moment où Vincent se penche sur le bas-relief qui s'étend d'un sarcophage à l'autre, une voix venue du palier supérieur les appelle. « Messieurs, le gardien s'est réveillé. Il nous a averti que les premiers employés n'allaient pas tarder. Remontez vite, nous devons tout remettre en place et quitter les lieux sans tarder. » Cavell et Addison échangent un regard. La frustration est sévère, autant que le goût d'inachevé. Charles soupire, résigné, mais il n'en est pas de même pour son comparse. En apercevant l'étincelle qui anime son regard, Addison a deviné ce qu'il pensait. Alors que Cavell ouvre la bouche, il déclare péremptoire « N'y pensez même pas, mon ami. Je refuse de vous laisser ici, au cœur de cette poudrière et de je ne sais quel piège. Vous sortez avec moi, maintenant !»